Chapitre 2 Versets 1 à 19 Les pièges qui environnent l'assemblée. Dans le premier chapitre, l'apôtre a dévoilé les gloires de Christ et fait référence à la gloire du mystère. Christ dans les saints, l'espérance de la gloire. Voilà les deux grands sujets de l'épître. D'abord, la plénitude de nos ressources en Christ, la tête de l'Église. Deuxièmement, Christ dans les saints, effectivement dans le jour de gloire à venir, et moralement déjà maintenant dans leur passage à travers le temps. Au chapitre 2, l'apôtre donne des avertissements et des instructions. Il met en garde contre les différentes façons par lesquelles le diable cherche à éloigner les saints de Christ et à détourner l'homme de l'expression de Christ dans les saints. Il nous instruit sur les ressources que Dieu a disposées pour que, d'une part, nous soyons préservés de ces pièges, et d'autre part, que nous exprimions Christ dans nos vies. Versets 1 à 3 Les exercices d'âme de l'apôtre. Citation de l'Écriture. Car je veux que vous sachiez quel combat j'ai pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et tous ceux qui n'ont point vu mon visage en la chair, afin que leur cœur soit consolé, étant unis ensemble dans l'amour, et pour toutes les richesses de la pleine certitude d'intelligence, pour la connaissance du mystère de Dieu, dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Fin de citation. Les versets introductifs nous révèlent les profonds exercices d'âme de l'apôtre. Il voyait clairement que l'ennemi cherchait à détourner de Christ les assemblées de Colosse et Laodicée, et qu'à moins d'être établie dans la grande vérité du mystère de Dieu, elle serait emportée par ses mauvais agissements. Il est instructif de voir le caractère de ces exercices. En premier lieu, il était profondément exercé pour que les saints soient trouvés dans un bon état spirituel. Il désire qu'ils soient consolés ou encouragés, et non pas déprimés par les attaques de l'ennemi. Il désire qu'ils présentent un front uni contre l'ennemi en étant unis ensemble dans l'amour, et non pas qu'ils tombent dans les conflits et les discordes par les agissements des hommes. Il est très difficile pour l'ennemi de prendre pied dans une compagnie de saints unis ensemble dans l'amour. En outre, il est exercé quant à ce bon état spirituel, non pas simplement en vue du service chrétien, si important qu'il fût, mais afin qu'ils aient une vraie intelligence de la vérité spirituelle. Ce n'est que dans la mesure où l'assemblée est dans un bon état, unie dans l'amour, qu'elle peut croître dans la connaissance de la vérité. S'il y avait beaucoup de sujets de rendre grâce dans l'assemblée à Colosse, il est évident qu'ils étaient défaillants quant à la vérité du mystère de Dieu et donc en danger d'être emportés par les discours spécieux des hommes. C'est pourquoi l'apôtre désirait que les croyants entrent dans les richesses de la vérité du mystère, qu'ils aient la pleine certitude d'intelligence qui vient de la pleine connaissance du mystère de Dieu. Cette grande vérité dit aux croyants qu'ils sont pris d'entre les juifs et les gentils afin d'être unis par l'esprit les uns aux autres et à Christ dans la gloire. Ils forment ainsi une nouvelle compagnie qui est hors d'atteinte de la mort, au-dessus de la puissance de l'ennemi. Une compagnie qui est certes dans le monde, mais n'en est pas. Une compagnie qui passe à travers le temps, mais qui appartient à l'éternité. Une compagnie qui est formée sur la terre, mais dont la destinée est le ciel. Les hommes, avec toute leur science et leur philosophie, peuvent prétendre à des hauteurs de sagesse et de connaissance, mais dans le mystère de Dieu se trouvent tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. En outre, l'apôtre désire que les saints entrent dans la vérité du mystère afin qu'ils échappent au piège de l'ennemi, car il ajoute aussitôt « Or je dis ceci afin que personne ne vous séduise ». Verset 4. Il désire ainsi un bon état spirituel pour que nous soyons en mesure de comprendre la vérité spirituelle du mystère et que nous échappions au mal spirituel. Après avoir exprimé les profonds exercices de son cœur, l'apôtre se met à dénoncer les différentes ruses de l'ennemi et à nous instruire sur la façon d'échapper à ses séductions et à l'attrait loin de Christ. Il y a quatre grands dangers contre lesquels nous sommes avertis. Les discours spécieux, au verset 4, le rationalisme, au verset 8, le ritualisme au verset 16 et la superstition au verset 18. On remarquera qu'aucun de ces mots ne fait partie de ces choses grossières du monde. Il s'agit plutôt de choses faisant appel à l'intelligence et au côté religieux de la nature de l'homme, des choses qui sont donc un piège spécial pour le chrétien. Versets 4 à 7. Les discours spécieux. Citation de l'Écriture. Or je dis ceci, afin que personne ne vous séduise par des discours spécieux. Car lors même que je suis absent de corps, toutefois je suis avec vous en esprit, me réjouissant et voyant votre ordre et la fermeté de votre foi en Christ. Comme donc vous avez reçu le Christ Jésus, le Seigneur, marchez en lui, enracinés et édifiés en lui, et affermis dans la foi, selon que vous avez été enseignés, abondant en elle avec des actions de grâce. Fin de citation. Le premier avertissement est « Que personne ne vous séduise par des discours spécieux ». Ceci est un avertissement contre l'erreur présentée sous une forme attrayante avec de l'éloquence humaine ou mélangée de termes chrétiens ayant une part de vérité. Jamais cet avertissement n'a été plus nécessaire que de nos jours, où le monde est inondé de livres religieux populaires contenant les erreurs les plus funestes, exprimées avec un langage raffiné, cachées sous des sentiments attrayants et revêtues d'un vernis chrétien. L'apôtre était d'autant plus inquiet pour les saints de Colosse qu'il avait de quoi se réjouir à leur égard, en voyant qu'ils étaient une compagnie en ordre, tenant ferme dans la foi en Christ. Néanmoins, il sentait qu'il ne serait pas en mesure de tenir ferme contre les ruses de l'ennemi s'il n'entrait dans la connaissance du mystère de Dieu. Si nous reconnaissons avec joie que, comme pécheurs, nous sommes sauvés par grâce, nous devons admettre que nous sommes bien lents à reconnaître l'autre grande vérité que, comme saints, nous sommes unis à Christ dans le ciel. Christ, la tête du corps qu'est l'Église, est le centre de la vaste création nouvelle selon les conseils éternels de Dieu. Connaissant seulement la grâce de Dieu qui apporte le salut, et manquant d'entrer dans les conseils de Dieu pour la gloire de Christ et la bénédiction des saints, la grande majorité des chrétiens est devenue une proie des pièges dont parle l'apôtre. Les discours spécieux des hommes peuvent sembler ouvrir de vastes panoramas de bénédictions plus vastes, de connaissances plus profondes, d'utilités plus grandes, mais leur effet est de détourner les âmes de Christ. L'apôtre commence donc par tourner nos pensées vers Christ, et il nous exhorte à ce que, après avoir reçu Christ comme notre Sauveur et Seigneur, nous marchions en lui. Il nous faut marcher dans sa dépendance, guidés et gardés de tous les pièges par la grâce et la sagesse qui sont en lui. En outre, si nous sommes enracinés en lui, comme la source de toutes nos bénédictions, cherchons aussi à être édifiés et établis dans nos âmes dans la vérité qui est en lui, et donc assurés ou affermis dans la foi. Cet affermissement dans la foi est le résultat du fait de tenir à la vérité comme nous l'avons apprise des enseignements de l'apôtre. Ce que nous avons appris dans les Écritures ne doit pas être gardé avec des cœurs partagés. Nous devrions chercher à abonder dans la vérité avec action de grâce. Hélas, les saints montrent trop souvent qu'ils sont bien peu affermis dans la foi qu'ils ont apprise des écrits des apôtres et, sous l'effet des discours spécieux de quelques meneurs, ils abandonnent facilement tout ce qu'ils ont professé croire. Combien est nécessaire l'avertissement afin que personne, quel que soit son don ou sa sincérité, ne vous séduise par des discours spécieux. Tout ce que nous entendons, de qui que cela vienne, nous ne serons en sécurité que si nous le testons par la foi selon que nous avons été enseignés dans la parole de Dieu. Versets 8 à 15. Le rationalisme. Verset 8. La philosophie. Citation de l'Écriture. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par de vaines déceptions, selon l'enseignement des hommes, selon les éléments du monde, et non selon Christ. Fin de citation. L'apôtre nous met en garde contre un second grand piège, celui du rationalisme, ou l'effort de tout expliquer par la raison humaine en excluant toute révélation. L'apôtre dit « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par de vaines déceptions. La philosophie est l'amour de la sagesse, mais la sagesse des hommes, par laquelle on cherche à expliquer tout ce qui se trouve sous le soleil. Hélas, la sagesse humaine laisse Dieu de côté et conduit à de vaines déceptions ou tromperies, telles que l'évolution, qui voudrait bien avoir un univers sans Dieu, et le modernisme, qui voudrait bien une forme de christianisme sans le Christ de Dieu et sans l'expiation de la Bible. L'apôtre répond à ce piège de la philosophie par une triple condamnation. Tout d'abord, dit-il, elle est selon l'enseignement des hommes, plutôt que selon la révélation de Dieu. C'est la raison pour laquelle elle exclut la foi. L'enseignement de l'homme n'est jamais la foi. Recevoir des déclarations parce que des hommes en font, ce n'est pas la foi, même si les déclarations sont vraies. La foi est la réception d'un témoignage divin par l'âme. Pensée de J.N. Darby. En second lieu, la philosophie est selon les éléments du monde. Et le monde peut donc lui trouver de la valeur. Étant appréciée par le monde, elle laisse ses adeptes dans le monde. Contrairement à la philosophie, le christianisme appelle un peuple hors du monde pour le ciel. Troisièmement, la philosophie n'est pas selon Christ. Elle conduit à la spéculation, elle ne conduit jamais à Christ. Pour cette raison, en dehors de toute autre considération, la philosophie est condamnée par le christianisme qui est marqué par la foi, qui tire les gens hors du monde et les rassemble vers Christ. Verset 9. Citation de l'Écriture. Car en lui habite toute la plénitude de la déité corporellement. Fin de citation. Après nous avoir mis en garde contre le piège de la philosophie, l'apôtre place aussitôt devant nous les grandes vérités positives qui nous préserveront d'être détournés par le néant de la sagesse humaine. D'abord, il nous tourne vers Christ. En lui habite toute la plénitude de la déité corporellement. Au lieu des spéculations brumeuses des hommes, nous avons Dieu parfaitement révélé dans toute sa plénitude en Christ. Pas un seul attribut de la déité ne fait défaut en Christ. En outre, cette plénitude est en lui corporellement. Christ a pris un corps et a été manifesté en chair, de sorte que la plénitude de la déité a été présentée d'une manière pouvant être connue par les plus simples des hommes. Il peut falloir une intelligence immense pour arriver à comprendre ne serait-ce que les mots dont les philosophes s'efforcent d'exprimer leurs spéculations. Mais de simples pécheurs de Galilée peuvent voir la plénitude de Dieu en Christ et entrer ainsi dans les vérités qui sont en dehors de la compréhension de la plus grande intelligence naturelle. Quelqu'un a dit « Pour la foi qui a vu à travers le voile de son humiliation quand il était ici-bas, il n'y avait pas un trait de son caractère, pas un acte de sa conduite, pas une expression du sentiment de son cœur sortant vers la misère autour de lui, qui ne fut la révélation de la déité. » Pensée de J.N. Darby. Verset 10. Citation de l'Écriture. Et vous êtes accomplis en lui, qui est le chef de toute principauté et autorité. Fin de citation. Deuxièmement, l'apôtre dit vous êtes accomplis ou complet en lui, qui est le chef ou la tête de toute principauté et autorité. Non seulement Dieu nous est pleinement révélé en Christ, mais les croyants sont pleinement présentés devant Dieu en lui. Toute la bénédiction que Dieu s'est proposée pour les croyants et que l'œuvre de Christ leur a acquise est présentée en Christ, lui-même, dans sa place, dans la gloire, au-dessus de toute principauté et autorité. Notre part et notre position, telles que présentées en Christ, sont complètes. Toute la philosophie et les enseignements des hommes ne peuvent rien ajouter à la plénitude de la déité révélée en Christ ou à l'intégralité de la part du croyant telle qu'on la voit en Christ. Quelle justice avons-nous? Elle est vue en Christ comme convenant tellement à la sainte nature de Dieu que nous sommes rendus capables d'avoir part au lot des saints dans la lumière comme Christ est dans la lumière. Quelle vie avons-nous? Christ, dans la gloire, est notre vie. Elle est montrée en lui. Dans quelle relation sommes-nous amenés? Elle est montrée en Christ. Son Père est notre Père et son Dieu est notre Dieu. Quelle gloire nous est assurée à la fin de notre voyage? Elle est montrée en Christ. La gloire qu'il a comme homme nous a été donnée. Nous sommes complets ou accomplis en lui. Verset 11. Circoncision et mort avec Christ. Citation de l'Écriture. En qui aussi vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'a pas été faite de main, dans le dépouillement du corps de la chair, par la circoncision du Christ. Fin de citation. Ayant établi la grande vérité de la plénitude de notre bénédiction, telle que montrée en Christ, l'apôtre montre comment Dieu a opéré pour délivrer le croyant de tout mal intérieur et de tout ennemi extérieur, afin de nous amener dans cette place merveilleuse de bénédiction en Christ. Il déroule devant nous cette grande œuvre de Dieu en se référant à la circoncision, à l'ensevelissement, à la résurrection et à la vivification. La circoncision, ou le dépouillement de la chair, nous dit que dans la mort de Christ, la chair avec tout son mal a été ôtée de la vue de Dieu. C'est quelque chose qui a été fait par Dieu sans intervention de l'homme. Il n'est pas question de la réalisation d'une expérience chrétienne, quoiqu'elle ait sûrement à être réalisée, et qu'elle implique l'expérience dans sa réalisation par le croyant. Car si nous reconnaissons que la chair a été traitée et condamnée à la croix, ce doit être une chose réglée pour nous, que la chair n'a plus à régir nos vies. Verset 12. Baptême, ensevelissement et résurrection avec Christ. Citation de l'Écriture. Étant enseveli avec lui dans le baptême, dans lequel aussi vous avez été ressuscités ensemble par la foi en l'opération de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Fin de citation. Après la circoncision, l'apôtre se met à parler du baptême qui présente la grande vérité que nous avons été ensevelis avec Christ afin que le vieil homme disparaisse. Le baptême présente une entière séparation d'avec le vieil homme, d'avec sa vie et toutes ses caractéristiques qui nous marquaient comme homme naturel. Abraham a dit « J'enterrerai mon mort de devant moi. Ce qui est mort doit être hors de la vue. » Et cela s'applique à notre baptême. Il serait difficile pour le monde ou les saints de dire quelle sorte d'homme nous étions avant notre conversion. Le vieil homme, qui a été crucifié avec Christ, serait hors de vue. Dans le chapitre 1, nous sommes exhortés à marcher d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire à tous égards. Nous avons à marcher devant le Seigneur en cherchant son approbation, sans chercher à avoir une place importante devant les hommes et sans rechercher l'approbation du monde. Nous gardant ainsi hors de vue, nous deviendrons de vrais témoins de Christ. Après le baptême, l'apôtre se met à parler de la résurrection. Le baptême nous sépare du monde et des hommes qui ont vécu dans le monde. La résurrection nous amène dans la lumière d'un autre monde. Dieu a ressuscité Christ d'entre les morts et par la foi nous savons que nous sommes faits compagnons de Christ ressuscité et que si le monde est fermé derrière nous, le ciel est ouvert devant nous. Chapitre 3, versets 1 à 4. Versets 13 à 15. Vivification, triomphe à la croix sur ce qui s'oppose. Citation de l'Écriture. Et vous, lorsque vous étiez morts dans vos fautes et dans l'incirconcision de votre chair, il vous a vivifiés ensemble avec lui, nous ayant pardonné toutes nos fautes, ayant effacé l'obligation qui était contre nous, laquelle consistait en ordonnance et qui nous était contraire, et il l'a ôtée en la clouant à la croix. Ayant dépouillé les principautés et les autorités, il les a produites en public, triomphant d'elles en la croix. Fin de citation. En outre, les croyants sont vivifiés. Il y a une œuvre positive de Dieu dans l'âme par laquelle les croyants sont rendus vivants avec Christ dans une vie libre du péché et de la mort. Le corps n'a pas encore été vivifié, car cela, nous l'attendons encore. mais nous avons une vie qui nous rend capables de jouir des choses d'en haut et de marcher dans la communion avec Christ sur notre chemin vers le ciel. Nous apprenons ainsi que tout ce qui, en nous, nous empêcherait de vivre la vie de Christ a été réglé. La chair a été condamnée par la circoncision de Christ dans la mort. Le vieil homme a été enseveli avec lui. Les choses célestes apparaissent par sa résurrection et nous sommes vivifiés avec une nouvelle vie qui peut entrer dans les choses célestes et en jouir. En outre, nous apprenons que non seulement le mal intérieur a été réglé, mais qu'aussi toute puissance qui s'oppose au dehors a été défaite. S'agissant de nos péchés, ils ont été pardonnés. S'agissant des ordonnances de la loi qui exigeaient de nous ce que nous ne pouvions pas faire et qui exigeaient une justice que nous ne pouvions pas fournir, nous en sommes délivrés par la croix. Toutes les forces spirituelles qui étaient contre nous ont été vaincues. Versets 16 et 17. Le ritualisme. Citation de l'Écriture. Que personne donc ne vous juge en ce qui concerne le manger ou le boire, ou à propos d'un jour de fête ou de nouvelle lune ou de sabbat, qui sont une ombre des choses à venir, mais le corps est du Christ. Fin de citation. Dans ces versets, l'apôtre nous met en garde contre un troisième grand piège auquel les saints sont exposés. La judaïsation. En ce temps-là, certains prétendaient ajouter à la vie chrétienne en insistant sur les ordonnances juives relatives à la nourriture, le manger, et à la boisson, le boire, et à l'observation de certains jours estimés saints, comme la nouvelle lune et le sabbat. Ce piège auquel les saints de Colosse étaient exposés s'est développé dans le ritualisme de nos jours. Il est condamné par Dieu en une phrase, comme étant un retour aux ombres d'une dispensation passée. Dans les jours d'autrefois, les ordonnances du judaïsme préfiguraient les réalités concrétisées seulement en Christ. Hélas, la chrétienté est tombée dans ce piège, et en retournant aux ombres, elle a largement perdu ce qui est la réalité, Christ. Au verset 17, l'expression « le corps est du Christ » peut être exprimée ainsi « la réalité est du Christ ». Versets 18 et 19, la superstition. Citation de l'Écriture. « Que personne ne vous frustre du prix du combat, faisant sa volonté propre dans l'humilité et dans le culte des anges, s'ingérant dans les choses qu'il n'a pas vues, enflé d'un vain orgueil par les pensées de sa chair, et ne tenant pas ferme le chef, duquel tout le corps, alimenté et bien uni ensemble par des jointures et des liens, croît de l'accroissement de Dieu. » Fin de citation. Dans ces versets, nous sommes mis en garde contre un quatrième piège, le culte des anges et l'intrusion dans des choses qu'on n'a pas vues. Ceci est la superstition de la chair qui aime pénétrer l'invisible et frayer dans l'inconnu. Cela peut avoir l'apparence d'une humilité prête à se soumettre à des êtres spirituels. En réalité, c'est seulement la chair qui se livre à sa propre volonté. Il a été justement dit des anges, « Ils ont affaire avec nous, mais nous n'avons pas affaire avec eux. Notre affaire est avec Dieu. » L'apôtre dénonce ce mal comme étant l'orgueil de la pensée de la chair qui prétend pénétrer les secrets du ciel. En outre, l'apôtre nous avertit que ce mal implique la mise de côté de Christ, la tête de son corps. Amener des anges ou toute autre créature comme la Vierge ou les saints entre nos âmes et Christ revient à nier notre union directe avec Christ. Il est le chef ou la tête de toute principauté et puissance. Et en tant que chef ou tête du corps, il administre directement toute nourriture spirituelle par l'aide spirituelle fournie par les membres du corps. Ainsi, la croissance spirituelle de l'âme est maintenue et le corps du Christ croît de l'accroissement de Dieu, tout à fait en dehors du ministère angélique qui, dans l'Écriture, est toujours en rapport avec les soins protecteurs du corps naturel. L'apôtre a ainsi fait passer devant nous quatre pièges différents qui nous font guère appel à la chair grossière, mais qui sont très attrayants pour la chair religieuse. Une chose est commune à tous ces pièges, il n'amène pas à Christ. L'erreur, enveloppée dans des discours spécieux, détourne les âmes de la fermeté de la foi en Christ, versets 4 et 5. Le rationalisme, avec sa philosophie et ses vaines déceptions selon l'enseignement des hommes, n'est pas selon Christ, verset 8. Le ritualisme, avec ses rituels et ses jours de fête, s'occupe des ombres et non pas de Christ, verset 17. La superstition, avec son intrusion dans les choses invisibles, met de côté Christ la tête, versets 18 et 19. Les discours spécieux peuvent facilement jouer sur notre ignorance. Le rationalisme fait appel à l'esprit humain, le ritualisme aux émotions et les superstitions à l'imagination. Mais aucune de ces choses ne révèle Christ à l'âme ni ne forme Christ dans nos vies. Elles ne conduisent pas à Christ. Pour faire face à tous ces maux et nous en préserver, l'apôtre présente Christ. L'ayant reçu, il est la puissance de notre marche, verset 6. Nous avons tout en lui, verset 9. Nous sommes identifiés avec lui, versets 11 à 13. Nous tirons toute nourriture de lui, verset 19. Du verset 20 au verset 11 du chapitre 3, la mort et la résurrection du croyant avec Christ. Dans la section précédente de l'épître, nous avons été mis en garde contre les dangers particuliers qui guettent l'assemblée chrétienne. Avec le verset 20 du chapitre 2, nous passons à la partie exhortative de l'épître. Nous y sommes exhortés à appliquer à nos vies pratiques la grande vérité que, comme croyants, nous sommes morts et ressuscités avec Christ. Dans l'application pratique de ces vérités à la vie et à la marche du croyant, on trouvera d'une part la délivrance des dangers dont l'apôtre a parlé, et d'autre part la préparation à la présentation des caractères de Christ dans les saints dont il est parlé dans la division suivante de l'Épître, du verset 12 du chapitre 3 au verset 6 du chapitre 4. Versets 20 à 23, l'effet pratique de notre mort avec Christ. Citation de l'Écriture. Si vous êtes mort avec Christ aux éléments du monde, pourquoi, comme si vous étiez encore en vie dans le monde, établissez-vous des ordonnances? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, choses qui sont toutes destinées à périr par l'usage, selon les commandements et les enseignements des hommes, qui ont bien une apparence de sagesse en dévotion volontaire et en humilité, et en ce qu'elle n'épargne pas le corps, ne lui rendant pas un certain honneur. Pour la satisfaction de la chair. Fin de citation. Les premières exhortations sont basées sur la grande vérité que les croyants sont morts avec Christ aux éléments du monde. Les mots mêmes de l'apôtre ainsi que la teneur générale de l'épître indiquent clairement que les éléments du monde sont les ordonnances religieuses inventées par les hommes ou empruntées au judaïsme. L'apôtre a parlé des différents pièges par lesquels l'ennemi cherche à détourner nos âmes de Christ. Comme nous l'avons vu, ces pièges ont tous un caractère religieux et intellectuel. C'est pourquoi, dans ce passage, il est insisté sur le grand fait que, si nous sommes morts avec Christ, c'est non seulement une mort vis-à-vis des choses grossières du monde, mais aussi vis-à-vis de la religion du monde. Les déclarations de l'apôtre dévoilent et condamnent très nettement cette religion mondaine. Tout d'abord, il montre que c'est une forme de religion entièrement adaptée aux hommes en vie dans le monde. La religion du paganisme, du judaïsme corrompu, comme aussi celle de la chrétienté corrompue, convient au monde. Elle peut être pratiquée par le monde et laisse les hommes en vie dans le monde. Elle se trouve ainsi condamnée par la parole de Dieu, car le christianisme tire le croyant hors du monde par la mort avec Christ. Ensuite, la religion du monde est une religion d'ordonnances ou de règlements humains auxquels l'homme naturel peut se soumettre. Ces ordonnances n'exigent aucune œuvre de Dieu dans la conscience ou dans le cœur et ne soulèvent pas de questions de nouvelle naissance ou de conversion. Ces ordonnances consistent à s'abstenir de certaines choses matérielles lors de certains jours que les hommes estiment saints, comme les nouvelles lunes et les sabbats. Elles peuvent se résumer par la formule négative « ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas ». Ensuite, Ces ordonnances occupent l'âme de choses matérielles qui périssent par l'usage. Une religion qui ne consiste qu'à obéir à ses ordonnances doit nécessairement périr lorsque les choses en quoi elles consistent périssent. La foi met le croyant en contact avec les choses spirituelles et invisibles qui sont éternelles dans les cieux. Ensuite, il nous est dit que cette religion d'ordonnance est selon les commandements et les enseignements des hommes. Elle n'est pas établie par Dieu, ni selon l'enseignement de l'Écriture. Ensuite, ces ordonnances des hommes ont une apparence de sagesse aux yeux du monde, car il semble sage d'éviter certaines choses dont les hommes risquent d'abuser et qui, en cas d'abus, sont nocives pour le corps. Ensuite, du fait que ces ordonnances mènent à l'ascétisme et à ne pas épargner le corps, elles semblent montrer une volonté de rendre culte à Dieu tout en s'humiliant et en se renonçant soi-même. Elles paraissent donc très méritoires aux yeux de l'homme naturel. Enfin, une telle religion se trouve totalement condamnée par Dieu comme étant simplement pour la satisfaction de la chair. Au lieu de mettre la chair de côté, comme étant sans valeur, elle reconnaît la chair et flatte son orgueil. Refuser au corps certains aliments, lors de certains jours établis, et traiter le corps avec dureté, satisfait la chair en lui donnant le sentiment d'avoir agi d'une manière louable. Ainsi donc, une religion qui se confie dans des ordonnances tout en faisant appel à l'homme en vie dans le monde est tout à fait inacceptable pour le croyant qui reçoit la grande vérité qu'il est mort avec Christ. Pour un tel homme, retourner à une religion d'ordonnances revient pratiquement à nier qu'il est mort avec Christ et à reprendre encore une fois sa place comme vivant dans le monde.